Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue, mesdames, messieurs, à Peut contenir des infos. Nous sommes là, non pas comme un seul homme, mais comme deux seuls hommes, c'est-à-dire Sébastien Boucher, qui est là en studio. Comment vas-tu?
Très bien. Et toi, Simon?
Ça va très bien, merci. Et moi-même, Simon Forgue, évidemment. Donc, ça fait la paire, vous l'aurez compris. J'espère que vous allez bien, vous autres qui nous écoutez, que vous soyez dans la voiture, que vous soyez à la maison ou encore au travail. Je salue tout particulièrement les gens qui sont du côté de Toronto, qui nous écoute d'une semaine à l'autre via Choc FM. Et vous savez qu'on est diffusé aux quatre coins du pays, n'est-ce pas? Et il y a des gens également qui nous écoutent à Nord-Ouest FM, à Rivière-la-Paix, en Alberta, ou enfin dans ce coin-là du Canada. Donc, considérez-vous comme salué. Et peu importe, de toute façon, l'endroit où vous nous écoutez, hein, c'est vrai. Parce que, de toute façon, on nous écoute à la radio et on peut aussi nous écouter en rattrapage d'une semaine à l'autre sur les internets.
Oui, nosradios.ca, entre autres, là, qui a toutes les émissions, peut contenir des infos. Vraiment intéressant, ça. Un site très facile d'accès, d'ailleurs, là, dans la section balado.
Oui, absolument. L'ami, tu nous parles aujourd'hui, entre autres choses, dans le, je pense, le troisième bloc. Il faut vous dire d'entrée de jeu, je ne veux pas sauter ou brûler les étapes. Tout à l'heure, nous aurons Marianne Despelteau sur le retour de la pause du quart d'heure. On va parler avec elle d'une bourse qu'elle a gagnée à la Fédération de la presse, ouais, Fédération professionnelle des journalistes du Québec, mes excuses, la FPJQ, comme on l'appelle dans sa forme courte. C'est rare qu'on récompense des journalistes francophones en situation de minorité linguistique dans une organisation comme la FPJQ. Hein. C'est une fédération professionnelle de journalistes au Québec. Mais Marianne Despelteau, elle a remporté cette bourse-là et on va parler de ça avec elle parce que, entre vous et moi, le journalisme, c'est pas exactement la job la plus, on va dire, glamour par les temps qui courent, hein? Tu sais, sont un peu malmenés les journalistes. Alors, on va lui demander pourquoi on s'en va en journalisme quand on est dans la jeune vingtaine. Toi, tu vas nous parler, à part de ça, un petit peu plus tard dans l'émission, tantôt, de... On va faire l'histoire des chiffres. Je me trompe, non?
Oui, l'histoire des chiffres, 0 à 9, en fait. Et comment ça se fait? D'où ça vient qu'on ait ces chiffres-là? Puis, je suis allé chercher un peu. Même que le 0, là... Vous allez voir, il a quasiment disparu des chiffres à un moment donné quand on a voulu les intégrer. Mais oui, l'histoire des chiffres, j'ai trouvé ça assez fascinant. On va en parler aujourd'hui.
Oui, on va parler aussi de nouveau réseau social qui gagne en popularité, Blue Sky. Est-ce que vous avez entendu parler de Blue Sky? Est-ce que vous êtes intéressé par Blue Sky? On va vous parler de ça. On va clore l'émission avec une info sur les brevets. Je pense que tu as fait une recherche sur les brevets, Sébastien, c'est vrai? Hein?
Ben oui, comme promis, semaine dernière, là, quand on avait parlé du brevet sur le Monopoly, ça m'avait mis la puce à l'oreille d'en trouver d'autres, des brevets spéciaux. Puis on va expliquer un peu comment ça fonctionne. Il y a tellement de monde qui sont devenus riches avec des brevets. Donc, pourquoi pas faire le tour et voir de quoi il s'agit exactement, les propriétés intellectuelles.
OK, mais on va commencer d'abord avec ton premier sujet. On va parler de l'impact du sommeil sur le vieillissement.
Ben oui, et l'importance du sommeil, vraiment. On va faire un sujet sommeil aujourd'hui, après avoir passé par les rêves lucides, toutes sortes de choses. Ben, le sommeil, c'est tellement important. Et puis, pour commencer, c'est vraiment un pilier essentiel de la santé et du bien-être. C'est sûr qu'on l'a entendu à maintes reprises, hein, c'est vraiment important d'avoir un bon sommeil. Et c'est de plus en plus étudié, l'impact sur le vieillissement par les experts. Et là, je vais te parler d'une récente étude qui a mis en lumière le rôle crucial de la durée du sommeil dans le processus de vieillissement, pour vieillir en bonne santé, en fait. Et là, on précise combien d'heures de repos on recommande pour préserver la vitalité, la qualité de vie avec l'âge. Alors, combien tu penses qu'il faut dormir d'heures, Simon?
En 24 heures dans une journée, je pense que 7 heures, ça doit être passablement suffisant.
Ça a de l'allure, ça a de l'allure. Oui, oui, oui. Les chercheurs s'accordent, en fait, pour dire que la durée du sommeil optimale pour personnes adultes, là.
Personne âgée, c'est ça?
Oui, personne âgée et adulte. Pour adultes et personnes âgées, les deux sont ensemble dans là-dedans. Okay. C'est 7 à 8 heures par nuit.
Bon.
Donc, tu étais dedans là, avec 7 heures. Ça permet au corps, là, ce créneau-là, de récupérer, de maintenir ses fonctions biologiques essentielles. Puis là, lorsqu'on vieillit, ben, y en a qui peuvent avoir des difficultés à atteindre ça, 7 heures de sommeil, en fait, pour des facteurs, soit liés à l'âge, différentes choses, les changements hormonaux, les troubles du sommeil, Mais la science insiste sur l'importance de maintenir cette quantité-là de repos, 7 à 8 heures, pour conserver une bonne santé cognitive, bonne santé physique. Et les spécialistes qui disent, c'est que dormir moins de 7 heures, bien, c'est là que ça peut entraîner des effets sur la mémoire, des effets négatifs, bien sûr, sur la concentration et même sur le système immunitaire. Donc, si on veut être prêt là, à faire face aux différentes maladies, tout ça, en plus, le sommeil est très important. Alors, à long terme, si on a un sommeil insuffisant, ça augmente le risque de développer des maladies chroniques comme l'hypertension, diabète, même des troubles neurodégénératifs. Puis le manque de sommeil, ça fragilise l'organisme, ça le rend plus vulnérable. Alors, les effets du vieillissement apparaissent beaucoup. Alors, il faut en tenir compte. Et un sommeil de qualité, il faut se rappeler que c'est bénéfique pour le cerveau. Ça contribue à renforcer la mémoire, préserver les fonctions cognitives. Puis pendant le sommeil, le cerveau se régénère, hein, puis il élimine ce qu'on appelle les déchets métaboliques qui sont accumulés durant la journée. Alors ça, là, ce qu'on appelle une réparation nocturne. Et c'est important de passer par là, et surtout avec l'âge, parce que ça permet de lutter contre le déclin cognitif, d'améliorer la qualité de vie aussi au quotidien. Et un sommeil de qualité, on sait que ça passe par plusieurs phases. Hein. On connaît les phases du sommeil un peu. Je l'avais abordé récemment, mais on peut y aller un petit peu plus. Là, il y a sommeil paradoxal. C'est celui-là qui est connu pour les rêves.
Okay.
Puis le sommeil profond, qui est bien important, la phase de réparation dont je te parlais, nocturne, ça se passe dans le sommeil profond. Et c'est là que le corps se régénère. Alors, dormir suffisamment, ça permet d'atteindre toutes les phases. Puis, ça renforce, comme je disais, les défenses immunitaires, ça améliore la mémoire, ça préserve la santé cardiovasculaire. Puis, en plus, un bon sommeil, ça régule l'humeur et ça réduit les niveaux de stress. Alors, pour toutes ces raisons-là, il faut y penser. Et pour bien vieillir, là, ces éléments-là sont importants. Et le sommeil impacte aussi sur la santé physique en régénérant les tissus. Fait que le fameux 7-8 heures là, de sommeil qui est recommandé, ça ralentit les effets du vieillissement aussi sur la peau, les muscles, les organes. Donc, si on veut contrer un peu le vieillissement, il faut y songer. Puis avec l'âge, on peut mettre des petites routines en place pour avoir un meilleur repos. Et ce que les experts recommandent, c'est de maintenir un horaire de sommeil régulier. C'est un des meilleurs trucs pour l'avoir, son bon 7-8 heures tout le temps. Et privilégier une bonne alimentation équilibrée. Bien sûr, éviter les écrans avant de dormir. Ça, c'est beaucoup trop fréquent. On passe beaucoup trop de temps encore devant le cellulaire dans le lit. Là.
C'est clair.
Alors, ça, si on veut un bon sommeil, là, mettez ça de côté là, une heure ou deux avant de dormir. Puis l'environnement de la chambre. Ça, c'est important. On y pense pas toujours, mais une température importante, une température agréable, puis un bon lit. Et
ah oui.
Souvent, on n'investit pas assez dans ces choses-là. Ça, ça joue beaucoup pour un sommeil réparateur. Alors, pourquoi pas investir dans un bon lit? Et surtout, là, si vous êtes en âge qui avance, bien, il faut y penser parce qu'avec le vieillissement. Et il y a certaines personnes qui se sentent en pleine forme, par contre, après seulement 6 heures de sommeil. Ça, on en connaît. Il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'un 9 heures. Alors, ce n'est pas 7-8 heures là, qui est parfait pour tout le monde. Il faut s'adapter.
Ce n'est pas un standard. Ce n'est pas parce que la science ou la médecine dit entre 7 et 8 heures que nécessairement c'est pour tout le monde. Il y en a qui sont tout à fait prêts, frais et dispo après 6 heures, mais il y en a d'autres, ça va lui prendre quasiment 10 heures pour être remis à plomb.
Oui, là. C'est ça. Puis là, il faut s'écouter dans ce temps-là, écouter notre corps, en fait. C'est ça le secret. Mais en visant entre 7 et 9, là, 7 et 9 heures par nuit, puis avec une routine de sommeil régulière, vous allez profiter de tous les bienfaits. Votre santé physique, santé mentale en sera améliorée et vous allez vieillir en ayant moins de signes du vieillissement. Alors, dormez bien, mesdames et messieurs. Achetez-vous des bons lits, des bons oreillers. Mettez-vous confortable. C'est tellement important pour tous les aspects de la santé.
Alors, en clair, si votre ado dort 11 à 12 heures par nuit, c'est pas par lâcheté, c'est parce que son cerveau est en train de passer la balayeuse pour faire le ménage des déchets métaboliques.
Voilà, t'as bien compris, Simon.
T'as bien compris, hein?
Oui.
Vous savez que la Société canadienne des postes... ça livre des colis, ça livre des lettres et tout ça, mais la Société canadienne des postes va bientôt faire une incursion dans un domaine un peu singulier, le monde bancaire. Étais-tu au courant de ça, toi?
Pas du tout. Moi, je suis seulement au courant de la grève.
Ben, ben c'est ça, là, mais c'est parce que, écoute bien ça, c'est que Postes Canada va devenir à toute fin utile une banque postale. Deux ans après la mise sur pied d'un programme de prêt qui s'était finalement soldé par un échec, on avait arrêté ça assez prématurément, Postes Canada a confirmé il y a quelques jours qu'ils allaient mettre sur pied, écoutez bien ça, un compte chèque et un compte d'épargne vont être offerts en partenariat avec une compagnie qui s'appelle Co Financial, Co, qui offre déjà une espèce de carte prépayée Mastercard. Et les comptes vont être lancés à l'échelle nationale l'année prochaine. Mais les employés de Poste Canada, enfin certains d'entre eux, on le comprend, vont avoir un accès anticipé au produit pendant sa mise à l'essai. On dit qu'il y a apparemment des lacunes actuellement dans les produits bancaires et les produits d'épargne qui sont disponibles et on va chercher chez Poste Canada à les combler dans une certaine mesure. On sait que des bureaux de Poste Canada, il y en a à toute fin utile pratiquement partout, si ce n'est pas partout à travers le pays, même dans de toutes petites communautés. Mais qu'en contrepartie, on voit que plusieurs grandes institutions bancaires, à titre d'exemple, ferment des succursales, souvent dans des régions un peu plus rurales ou un peu plus reculées. Bien, Poste Canada va un peu combler cette lacune-là. L'offre va s'appeler « Mon argent ». Il va y avoir un compte de dépenses et un compte d'épargne et on va pouvoir sélectionner certains avantages comme des taux d'intérêt élevés, des récompenses en argent, des outils de renforcement du crédit. Et on dit que ce que ça va inclure comme programme ou comme offre, cette espèce de programme « Mon argent », c'est qu'au lieu d'avoir une carte débit comme vous connaissez dans votre succursale bancaire, par exemple, la fameuse carte Interac, hein, tu connais la carte Interac, pas mal tout le monde a ça, c'est que là, ça va être plutôt une carte Mastercard prépayée rechargeable. Donc, on va l'utiliser dans tous les établissements qui acceptent la fameuse Mastercard, mais à la différence, c'est que ce ne sera pas une carte de crédit, c'est une carte qui va pigé dans votre compte dans une certaine mesure. Donc, vous allez payer comme avec une carte de débit, sauf qu'elle va être frappée du logo Mastercard au lieu d'être frappée du logo Interac. Alors, ça va offrir un peu le meilleur des deux mondes. C'est qu'on va pouvoir payer, parce qu'on sait que quand on va dans les commerces au détail, plus souvent qu'autrement, on peut payer avec Mastercard. Mais quand vient le temps de faire des achats en ligne, tu sais, on ne peut pas acheter avec une carte Interac.
Hein? Okay, ouais.
Tu ne peux pas faire d'achat.
Ça va être pratique. Hein?
Ben là, avec cette carte-là, offerte par Poste Canada, ça va permettre justement de faire des achats en ligne. Et selon certaines indications, il va y avoir apparemment différents types de comptes. Certains vont être même gratuits pour les gens qui sont peut-être un peu moins nantis ou enfin qui ont besoin d'avoir un compte de chèque puis qui n'en ont pas parce que la caisse demande d'avoir une pile de paperasse puis d'avoir des antécédents et tout ça. Et on rappellera en terminant que Poste Canada avait, comme je l'ai dit tantôt, déjà fait une espèce d'incursion dans le monde bancaire, mais ça avait été somme toute assez de courte durée. C'était une espèce de programme de prêt qu'il avait fait fin 2022 à peu près. Ça avait été fait avec le groupe bancaire TD, mais on avait mis fin à ça assez abruptement parce que il y avait eu des espèces de problèmes récurrents, puis on a dit « garde ». Au lieu d'essayer de réparer tout ça, on va simplement scraper ça. Mais depuis, on cherchait une façon ou une autre de réintégrer Poste Canada dans le monde bancaire. C'est une recommandation qui avait été formulée depuis plusieurs années, entre autres par le syndicat canadien des postes, les gens du service postal qui disaient, ben vous voulez diversifier les revenus, partez une banque postale. Vous savez qu'en France, il y a la banque postale, hein?
Non, je n'étais pas au courant.
Le service des postes en France a justement un service semblable à celui-là, la banque postale. Ben, c'est un peu, dans une certaine mesure, ce qu'on va mettre en place. Ça devrait arriver à compter de 2025. Et c'est, soit dit en passant, et je vais conclure avec ça, une espèce d'alliance qui est déjà en chantier parce que depuis quelques mois déjà, c'est possible pour les gens qui ont un compte Koro. Vous pouvez aller chez Poste Canada pour déposer de l'argent. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu des vases communicants dans une certaine mesure. Surveillez ça. Ça s'en vient à compter de 2025. Il va y avoir probablement un comptoir bancaire dans une certaine mesure à votre comptoir des Postes Canada où vous allez chercher vos thèmes puis déposer vos enveloppes. C'est le temps de marquer un temps d'arrêt. Première pause de l'émission. On revient dans un moment. On parle avec Marianne Despelleteaux. On va parler de journalisme. Restez branchés.
Peut contenir des infos.
À un moment de, on va dire, notre histoire moderne où le journalisme est particulièrement malmené, on va dire que le journalisme carrément est mis à mal chez une certaine partie de la population, particulièrement à travers les médias sociaux, c'est assez fascinant de voir qu'il y a des jeunes gens qui nourrissent encore une passion pour ce métier-là, Sébastien.
Oui, c'est clair, on en voit. Puis on va discuter aujourd'hui avec une fille qui veut faire du journalisme et qui en fait déjà, Marianne Despelleteaux. Et, fait notable, elle a remporté le 16 novembre dernier une bourse de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. C'est la bourse Arthur Prévost. Et on remet ça chaque année depuis 2007 à un ou une journaliste qui a moins de 5 ans d'expérience, donc des nouveaux dans le métier, mais qui démontre un beau talent prometteur.
Oui, c'est une jeune femme qui est issue de la francophonie en situation minoritaire au pays, puisqu'elle est elle-même franco-ontarienne et, on va le dire, le recevoir un prix de reconnaissance d'une fédération professionnelle de journalisme au Québec, c'est quand même assez singulier, c'est pas très commun, c'est même assez inspirant, que je vous dirais. Alors, on va discuter avec elle, elle est en studio avec nous. Marianne Despelletos, bonjour Marianne.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Je vais très bien, et vous?
Ça va bien, merci. D'abord, en félicitations pour cette bourse-là, la bourse Arthur Prévost 2024 de
merci.
La FPJQ. La première question, Marianne, on va le dire et on l'a dit tantôt, le journalisme en 2024, pas parce que c'est pas une job qui est importante dans la société, bien au contraire, c'est quand même un métier qui est assez malmené dans l'opinion publique. Hein? On le voit aller dans les médias sociaux, ça crée énormément de pression sur les journalistes. Qu'est-ce qui fait que, dans un si jeune âge que le tien, parce que t'es quand même pas très très vieille. Qu'est-ce qui fait qu'on se garoche dans le journalisme en 2024?
Il y aura toujours des défis, peu importe le métier. Moi, ça me motive, en fait, au contraire. Je me dis, il y a quelque chose à faire. Je pense que, tu l'as dit, il y a une confiance envers les institutions démocratiques, que ce soit le gouvernement, les médias, peu importe, qui est à la baisse au Canada. Si je peux contribuer à ramener une certaine confiance de la population, tant mieux. Je pense que le mieux qu'on puisse faire à ce point-ci, c'est juste bien faire notre job, en fait. C'est vraiment de toujours viser plus de rigueur, plus de crédibilité dans l'information qu'on rapporte. Donc, c'est pour moi une motivation plus qu'autre chose. Là, ça me fait pas trop peur. C'est peut-être aussi ma jeunesse et ma naïveté, c'est possible. Mais moi, je vois ça comme un beau défi.
Ah, ben c'est bien. C'est une belle façon d'affronter ça, vraiment. Et puis là, je voudrais savoir, Marianne, moi, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette reconnaissance-là, au point de vue personnel et aussi au point de vue professionnel, d'avoir gagné ce prix?
Bien, c'est sûr que moi, je travaille pour Franco-Presse, donc c'est un média francophone en situation minoritaire. Qu'on ait une reconnaissance du Québec, je trouvais ça vraiment spécial. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est la première fois que ça arrive. Donc, de pouvoir porter ce flambeau, c'est vraiment un honneur. Et puis, le legs testamentaire d'Arthur Prévost, c'est non seulement pour souligner la qualité journalistique, c'est aussi pour souligner un engagement envers le métier. Et j'avoue que ça me donne une certaine confiance par rapport à mon avenir, mais c'est aussi un honneur de voir tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant reconnu. Là, ça justifie peut-être quelques nuits blanches.
La raison pour laquelle on t'a reçu en entrevue, Marianne, c'est que c'est vraiment exceptionnel ce que le jury a dit. Moi, je tiens encore une fois à te féliciter. Et là, je vais me reporter à ma feuille parce que je veux les citer quand même très, très bien. Ils ont reconnu d'abord la qualité de tes articles, ce qui est assez extraordinaire, le choix de tes sujets. Je ne dis pas extraordinaire dans le sens que ce n'est pas commun là, que les journalistes aient de bons sujets et que les articles soient de qualité, mais à un si jeune âge comme le tien, hein, on parle aussi de ton dynamisme, ton engagement dans le métier. Il me semble que ce sont des caractéristiques, si on veut, qu'on va retrouver chez des journalistes qui ont une longue feuille de route. Est-ce que ça rajoute un petit peu de pression de recevoir tous ces honneurs-là ou de se faire dire ça par ses pairs qui sont, somme toute, des gens avec quand même un peu d'expérience, on s'entend?
La pression, je m'inflige moi-même. C'est sûr que là, ça rajoute peut-être une petite coche de plus, mais, mais je dois souligner que si j'ai réussi à faire ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est aussi que j'ai des modèles assez extraordinaires dans ma vie. J'ai eu des rédacteurs en chef formidables, Mélanie Tremblay, qui a été rédactrice en chef à Franco-Presse, Julien Caillouette, qui l'est actuellement. Puis j'ai des modèles dans le milieu, Thomas Gerbet, qui est mon mentor depuis plusieurs années maintenant, qui est, selon moi, là, je suis très biaisée, mais un des meilleurs journalistes qu'on a dans le pays. Et ça aide beaucoup. Là, c'est pas un travail qui se fait toute seule. Toute l'équipe de Franco-Presse qui est à mes côtés aussi. C'est sûr que ça rajoute une petite pression parce qu'on a comme l'impression que nos prochains pas vont peut-être être un petit peu plus visibles. Puis que, bon, là, j'ai l'impression de m'être mis un certain standard par rapport à mes choix de sujets, justement, puis peut-être la qualité de certains articles. Je veux pas trop m'avancer, mais si je peux faire d'autres sujets comme ceux que je viens de faire, tant mieux.
Hey, mais selon toi, qu'est-ce qui est différent, par exemple, un journaliste qui exerce le métier dans une province qui est à majorité francophone, comme le Québec, ou comme toi, être journaliste francophone qui à couvrir l'actualité dans un milieu minoritaire, qu'est-ce qui serait différent entre les deux?
Je pense que tous les médias francophones en milieu minoritaire pourraient témoigner de ceci. Il y a une question de ressources. Il y a beaucoup de... Bon, la crise des médias frappe très fort chez les journaux francophones hors Québec. Ça, c'est une grande différence. Une autre différence, puis ça vaut pour tout ce qui est francophonie hors Québec, le fait d'être en milieu minoritaire, faut toujours se battre un petit peu plus fort. Et en journalisme, on fait attention là, à ne pas être trop engagé, à ne pas être militant, Mais quand vient le temps de parler de langue française, on n'aurait pas de boulot, on n'aurait pas d'emploi s'il n'y avait pas une langue française et des institutions assez fortes à l'extérieur du Québec. Donc ça, c'est toujours difficile là, de jaucher la limite entre « je suis journaliste, je suis neutre », d'un autre côté, le combat pour la langue française, je ne peux pas être un petit peu engagée. Là. Je veux dire, je ne peux pas ne pas être engagée du tout. Mm-hmm. On n'a pas le choix. Sinon, je veux dire, ça revient à une question très rationnelle de « je n'aurais pas de métier ». Donc ça, c'est une grande différence. Une autre différence, c'est la proximité avec le milieu qu'on traite. Là. Ça vaut surtout pour les médias locaux. Les communautés francophones en situation minoritaire, elles sont soudées, elles sont très proches. Et quand on est journaliste, on fait partie de cette communauté, probablement beaucoup plus, j'imagine, qu'au Québec. Là. Donc, ça peut être difficile parfois quand on doit faire la couverture peut-être un petit peu négative d'un ami ou d'un proche ou peut-être d'un bailleur de fonds aussi. Ça, c'est des enjeux que j'ai déjà entendus. Donc, il y a certaines différences comme ça, mais je dirais que la principale, là, je reviens là-dessus, c'est l'engagement par rapport à la francophonie de trouver ce juste équilibre entre défense de la langue française, mais en même temps, on la couvre médiatiquement, on la couvre de manière neutre.
Vous marchez souvent, pour ainsi dire, sur un mince fil de fer. Là. La ligne est assez ténue entre, comme tu le disais tantôt, tomber peut-être un peu, pas dans la partisanerie, mais dans un certain parti pris par rapport au fait que vous couvrez, comme tu le disais tantôt, la francophonie canadienne. Tu dis, bon, je peux-tu rentrer là-dedans? Puis tout ça. Mais les gens ont une drôle de perception actuellement sur le métier de journaliste. Hein? On le lit dans les médias sociaux. Vous vous faites rentrer dedans. Je dirais pas que c'est continuel, mais il faut juste aller faire un tour sur X, là, sur Twitter, pour s'en rendre compte que la job de journaliste, c'est pas facile. Qu'est-ce que les gens ignorent de ce métier-là de journaliste puis que t'aimerais qu'ils sachent?
Je pense qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à notre financement. Quand on parle de CBC, Radio-Canada, on pourrait peut-être reprocher la même chose à Franco-Presse. Là, essentiellement, on est financé par Patrimoine canadien.
C'est ça.
C'est pas parce qu'on est financé par le gouvernement ou en grande partie par le gouvernement qu'on est pro-parti au pouvoir.
C'est ça.
Donc ça, c'est une distinction très importante à faire. Le gouvernement n'est pas dans les salles de rédaction. En principe, ne l'est pas. Quelque chose d'autre, c'est probablement l'essence du métier de journaliste, c'est que quand on couvre un sujet, c'est pas parce que je choisis de parler, par exemple, d'une initiative, je ne sais pas, du gouvernement libéral, que je suis pro-gouvernement libéral. Le choix du sujet ne trahit pas forcément une position. Puis ça, je pense qu'il y a une grande distinction à faire. Là. Ça a été un enjeu particulièrement pour l'immigration, parce que j'ai beaucoup couvert l'immigration dans les derniers mois. Mais moi, je me posais la question à un moment donné, je me disais, mais est-ce que la manière dont j'écris, peut-être juste le choix des angles, est-ce que tout ça trahit une certaine partisanerie? C'est à moi de me remettre en question. Le public, normalement, devrait pouvoir nous faire confiance. Donc, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il faut, à un moment donné, oui, faire confiance aux journalistes. On fait un travail très conscient. En tout cas, on devrait faire un travail très conscient. Quand on est en entrevue, quand on rédige nos textes, quand on est à la radio, peu importe, de faire ce travail d'objectivité. Puis nous, on doit se remettre en question, encore une fois. La population, dans un monde idéal, ne devrait pas nous remettre en question, devrait nous lire et nous faire confiance. Donc, c'est peut-être... Le public n'est pas ignorant face au métier du journaliste, puis je pense que le public doit demeurer critique. Ça va nous permettre de nous remettre en question, justement, là, si le public est critique par rapport à nous. Mais je pense qu'il faut ramener cette confiance-là, puis ça passe peut-être aussi par l'initiative des journalistes eux-mêmes, là, à mieux expliquer notre métier, mieux expliquer nos démarches.
En clair, vous êtes assez intelligent pour faire votre ouvrage sans qu'on soit continuellement au-dessus de votre épaule en train de vous taper dessus, là, c'est ça un peu?
Encore une fois, le fait que le public nous remette en question, c'est super, c'est... ça veut dire qu'on est en démocratie, parfait.
Ben oui.
mais oui, il faut peut-être faire un petit peu confiance aux journalistes des fois. Là.
C'est ça.
Hey, mais Marianne, si tu avais un message à envoyer, s'il y a des jeunes là, qui nous écoutent et comme toi rêveraient de faire carrière en journaliste, mais qui auraient peut-être des gros doutes, des choses, qu'est-ce que tu leur enverrais comme message?
C'est un beau métier. La raison pour laquelle je le fais, c'est un peu bête, là, mais je suis payée pour apprendre tous les jours, ce que je trouve absolument formidable. Donc, pour n'importe quel jeune qui adore être sur les bancs de l'école, qui adore apprendre des choses, parler aux gens, qui est curieux, c'est un métier vraiment extraordinaire pour ce type de personnalité. C'est un métier très rigoureux, par contre. Puis, faut pas non plus le sugarcoater, comme on dit en anglais. Faut faire preuve de beaucoup de rigueur. Ça prend, en fait, de mettre son ego de côté. Le journaliste n'est pas important, en fait. C'est la nouvelle, c'est l'histoire qu'on rapporte qui est importante. C'est les gens à qui on parle qui sont importants. Donc, faut être capable de mettre son ego de côté. Faut être capable de... je pense que ça, avec les réseaux sociaux, ça va être un sacré défi pour ma génération. Mais il faut être capable là, de se mettre de côté, de se dire « ouais, c'est pas moi qui est important ». Mais je dirais foncer. Je veux dire, c'est un beau métier. En plus, il y a un sentiment de contribution à la société que moi, je pense pas pouvoir retrouver ailleurs. Parce que ce soit un impact à court terme, là, qu'on informe tout de suite, immédiatement, la population, peut-être ça peut mener à des changements de politique publique, ne sait-on jamais. Mais l'impact peut aussi être à long terme. Parfois, il y a des dizaines d'articles que j'ai écrits qui n'ont peut-être pas eu un impact tout de suite, mais je me dis, ben, peut-être dans 20 ans, il y a un historien qui va s'en servir ou ça va servir à des travaux d'archives. Puis ce sentiment d'utilité, je pense qu'il est de très grande valeur.
Juste un petit 30 secondes là, en terminant. Je veux que les gens comprennent que tu es journaliste depuis 2021 pour Franco-Presse, mais que tu fais en même temps des études universitaires à temps plein. Est-ce que 25 heures dans une journée ou tu trouves ton temps là-dedans?
Je dors pas beaucoup, mais, okay. Mais en même temps, bon, j'ai aucun ami qui ne fait pas ses études à temps plein et qui n'a pas une job à temps partiel à côté.
C'est ça.
Je pense que le problème avec mon mode de. Mon emploi du temps en ce moment, c'est que le journalisme, c'est pas du 9 à 5. On n'a pas de shift. Si tu reçois un appel à 20 heures, ben, tu réponds au téléphone. Si tu reçois un courriel urgent, tu réponds à ton courriel. Donc, c'est pas non plus je rentre, je fais mon shift de 4 heures et après je quitte. Je dors pas beaucoup. En même temps, j'ai vraiment une chance inouïe de pouvoir déjà être dans le métier à mon âge, avant la fin de mes études. Pour ça, j'ai Franco-Presse à remercier pour ça. J'ai aussi Radio-Canada Sudbury à remercier parce que c'était mon premier contrat quand j'avais 18 ans, là. Donc, la confiance qu'on m'a accordée était vraiment... en fait, c'est avéré une grande chance pour moi.
Ben bravo, elle est belle à voir aller, franchement, la relève journalistique, mesdames, messieurs, si vous pensiez que c'était désespéré, qu'il y avait des gens corrompus et tout ça, ben, il y a des Marianne Despelleteaux également qui travaillent chez Franco-Presse et qui est, on l'a dit tantôt, récipiendaire d'une bourse, la bourse Arthur Prévost 2024, qui a été remise tout récemment par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Marianne Despelleteaux, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Nous allons entrer, mes très chers amis, dans le monde fascinant, non pas des schtroumpfs ou encore des farfadets, mais des chiffres.
Oui, et oui.
L'histoire des chiffres.
C'est l'histoire des chiffres aujourd'hui, elle peut contenir des infos, entre autres. Mais oui, on va parler de l'histoire des chiffres vraiment du 0 à 9, là, les chiffres qu'on connaît, les chiffres arabes. Et ce sont les ecclésiastiques, ce sont les gens d'église, là, qui ont tenté de faire admettre les chiffres arabes au départ. Tout d'abord, là, les chiffres qu'on appelle arabes, je voudrais vous dire, de nos jours, ben, ils étaient appelés les chiffres indiens à une époque. C'est les Indiens qui ont été les premiers à utiliser cette numération-là, positionnelle décimale. Qui aujourd'hui, c'est la nôtre, là, on la voit partout. Mais la forme des chiffres a évolué au fil du temps. On n'a plus exactement les mêmes chiffres que les chiffres indiens. Mais quand même, c'était les chiffres indiens au départ. Puis à l'époque, l'Occident savant utilisait surtout des chiffres romains. On n'avait pas les chiffres arabes encore. Il faut reconnaître que changer de notation, par contre, c'est vraiment compliqué. Même si le fait de changer, ça a simplifié les choses, ça a été compliqué de le faire. Et le monde non savant, c'est-à-dire les petits commerçants, les gens du peuple, utilisaient une autre méthode de calcul, eux, c'était l'ABAC. Est-ce que tu sais c'est quoi l'ABAC?
Ben oui, absolument. Une espèce de barre avec des petites boules qu'on déplace dessus, c'est ça, hein?
Ben, grosso modo, oui, c'est une plaque sur laquelle il y a des petits cailloux. On déposait des cailloux,
okay.
Puis ça ressemblait à un boulier. Puis on manipulait ça. Et d'ailleurs, un caillou, là, en latin, c'est calculus, d'où le mot calcul.
Okay.
Attention, petite tranche d'histoire aussi. Mais l'avantage de la méthode, là, c'est qu'on n'avait pas besoin de savoir lire ou d'écrire là, pour utiliser la BAC, ce qui rendait ça extrêmement populaire et difficile à abandonner. Hein, c'était la méthode pour compter. Mais il a fallu attendre à 1143 pour qu'apparaissent les premières traductions et les adaptations latines du livre de l'addition et de la soustraction d'après le calcul indien, un livre d'Al-Khwarizmi qui est sorti en 825, ce livre-là. Mais en 1143, là, on l'a traduit.
C'est pas grave, là, la prononciation, il est plus là de toute façon pour t'en vouloir.
Khwarizmi, ouais, j'ai fini par l'avoir.
Ouais.
Mais toutes ces traductions-là sont dues à des gens de l'Église, hein, et c'est tout simplement parce que l'immense majorité des savants occidentaux à l'époque étaient des moines. Donc, c'est vraiment eux qui ont fait ces traductions-là. Puis l'usage des chiffres indiens était réservé dans le temps à une élite intellectuelle essentiellement ecclésiastique. Il faut qu'on attende à 1202 et les travaux de Leonardo Fibonacci. Ça, tu as certainement entendu parler de lui. Il est très connu, notamment pour sa suite du nombre d'or, la suite,
ah, oui. Néo,
la suite de Fibonacci.
OK, ouais.
On y reviendra, ça, parce que le nombre d'or, ben, peut-être pas aujourd'hui, mais ça vaut la peine un jour de parler de ça, la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Mais c'est à partir là, de 1202, quand il y a eu les travaux de Fibonacci, que l'usage s'est étendu peu à peu aux marchands. Et là, l'introduction des chiffres arabes s'est faite en oubliant littéralement le zéro au début. Puis ça, c'est assez intéressant. Le premier manuscrit de l'histoire qui a été écrit en latin et qui avait des chiffres arabes, ça s'appelle le Codex Vigilanus, a été rédigé vers 975 dans un monastère du nord de l'Espagne et il y avait seulement 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas de zéro. Et aussi, quand Gerbert d'Aurillac, qui est devenu pape, lui, plus tard, mais les avait introduits, lui, dans les années 990, ben, il n'y avait pas de zéro non plus dans les chiffres. Alors là, il y en a qui se sont demandé par après, est-ce que le Moyen-Âge a eu peur du zéro? Est-ce qu'on aurait pu penser que le zéro faisait peur, que les chiffres arabes étaient aussi indésirables en Occident? Il y a toutes sortes de théories qui sont arrivées. On pensait qu'importer des idées qui venaient du monde musulman, ça pouvait seulement faire que le monde chrétien est en défiance. Et d'autant que parmi les chiffres arabes, le zéro, là, on aurait dit que c'était le plus dangereux parce qu'il symbolisait le vide, un concept qui aurait pu, par exemple, défier la création divine. Bon, des choses comme ça. Mais au fond, c'est pas du tout ça qui est arrivé. Peu importe les petites théories. Quand ça avait été interdit, par exemple, par le Conseil de Florence en 1299 et par l'Université de Padoue en 1305 en Italie, les chiffres arabes, ben, c'était pour des raisons pratiques. La forme des chiffres est encore très variable. C'était facile de changer d'un nombre à un autre puis de se tromper. Bon, on avait exigé des banquiers puis des libraires d'écrire les montants en lettres, vraiment comme on fait aujourd'hui sur les chèques, là, pour éviter les erreurs.
Okay.
Donc, en écrivant en lettres, là, on ne faisait pas trop d'erreurs. Mais c'était pour ça qu'on avait interdit les chiffres arabes. Ce n'était pas du tout pour une question de religion. Et quant à l'Église, ben, elle a condamné des thèses liées à la science, mais c'était surtout des théories physiques et non mathématiques que l'Église voulait remettre en question. Et ça a été le cas tout au long du 13e siècle. En 1277, l'Église s'était opposée fermement à la théorie d'Aristote qui disait que le vide était impossible, lui. Tu sais, Aristote.
Ouais.
Et la croyance de l'omnipotence divine, ça rend le vide possible, en fait, ou du moins imaginable. Fait que l'idée, là, que le zéro, ben, ça faisait pas l'affaire de l'Église ou qu'il en avait peur, c'est complètement faux. L'Église n'avait pas peur du zéro. Et de même, l'idée d'un Moyen-Âge qui aurait été anti-scientifique, c'est à bannir aussi, parce que je peux te donner des exemples. La circulation des manuscrits au Moyen-Âge, ça a fait une des plus grandes avancées du Moyen-Âge. Puis concernant le zéro, il y avait l'Anglais Adélard de Bath vers 1080 à 1152 qui a voyagé beaucoup et qui a beaucoup critiqué la fragilité des enseignements donnés en Gaule. Lui, il voulait trouver ce qu'il y avait de plus remarquable en chacun des savants des différents peuples, puis l'amener. Donc, le Moyen-Âge n'était pas anti-scientifique non plus.
Bien, en partant, il faut se dire que la transmission du savoir à cette époque-là était due en grande partie aux moines copistes, entre autres,
oui,
qui reproduisaient les livres et qui faisaient justement que le savoir était disséminé. Donc, pour des gens qui auraient détesté le savoir, de s'astreindre à faire la reproduction de livres pour que le savoir soit disséminé, ça aurait été un peu en faux avec ces prétentions-là dont tu parlais, là, tu sais.
Oui. Puis, pour ce qui est du zéro, ça a comme été juste un peu oublié, par exemple. Ce n'était pas des affaires là, comme toutes les idées dont je t'ai parlé. Hey, mais si vous voulez connaître l'histoire du zéro, je vais vous proposer un livre. Il y a Antoine Houlou-Garcia, un chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a écrit un livre qui s'appelle « Il était une fois le zéro ». C'est vraiment intéressant. Puis, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi le zéro a été absent et présent, bien, c'est sur les éditions Alizio. C'est sorti en 2023, ce livre « Il était une fois le zéro ». Ben, je vous le recommande. Mais tout le 13e siècle, comme je le disais, a été marqué par une lutte, une grosse lutte entre les universités et l'Église. L'Église voulait interdire plusieurs enseignements scientifiques. Et le fait que le calcul indien, c'était tellement efficace, c'est une force, là. C'est la performance pour le calcul. Parce qu'une numération décimale avec des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, des puissances de 10, et la façon de les positionner, ça rendait les calculs tellement faciles. Parce que si on prend l'exemple, la numération romaine, qui était, ça c'est pas décimal, hein, c'est un mélange de base de 5 et base de 10 avec des symboles spécifiques. On a le V pour le 5, le L pour le 50, le D pour le 500. Et c'est pas positionnel non plus, parce que c'est tout croche un peu. Tu sais, si on met un V, ça donne 4. Là. C'est pas comme une dizaine, puis le 5 pour les unités, c'est une soustraction. Là.
C'est ça.
Le 1 avant le V. Donc, c'était compliqué de calculer. Puis, si on essaye, par exemple, de poser l'addition écrit en chiffres romains, CV avec 3 barres pour dire, mettons, 153, puis XLIV, en tout cas, puis essayer de faire la multiplication, voir. Vous allez voir que la BAC, c'est une solution pas mal plus efficace dans ce temps-là, hein? le fameux chose avec les cailloux.
Et si vous voulez voir encore en 2024 l'utilisation des chiffres romains, parce qu'on les utilise encore, regardez à la fin des films au cinéma, très souvent, il y a encore des productions, pas toutes, mais enfin plusieurs, certaines d'entre elles vont écrire l'année de la production en chiffres romains à la fin du générique. Vous regarderez ça si ça vous tente de vous pratiquer à lire les chiffres romains. C'est encore possible de faire aujourd'hui.
C'est possible, mais pour calculer, là...
C'est pas terrible.
Donc, quand on regarde là, avec la numération indienne qui vient, si on fait, mettons, 108 plus 44, on fait juste visualiser les chiffres écrits un en dessous de l'autre, hein, on obtient vite le 152, chose qu'on ne pouvait pas déduire avec l'écriture romaine. Donc, on comprendra que c'est terriblement efficace. Et ça, ça a été très loué par Leonardo Fibonacci. C'est lui qui a donné le succès et l'adoption de la numération indienne, en fait. Et là, on est avec ça. Donc, ça fait, c'est une petite histoire résumée très rapide des chiffres, là, mais... J'ai trouvé ça assez spécial et je savais pas que le zéro avait été oublié si souvent dans les premières fois qu'on a voulu intégrer les chiffres indiens ou arabes.
Intéressant et surprenant à la fois. Moi, je vais vous parler d'un réseau social dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être pas également. Il s'appelle Blue Sky. As-tu entendu parler de Blue Sky?
J'ai entendu le nom, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, Blue Sky.
Ben, c'est le nouveau réseau social à la mode qui attire de plus en plus d'utilisateurs, à tel point qu'il gagne à peu près 1 million de nouveaux abonnés par jour ces temps-ci.
Oh, tant que ça!
Ouais, ça grimpe assez rapidement. Alors, Blue Sky, l'une des particularités, c'est que c'est à toute fin utile un copycat, excusez-moi l'expression, de Twitter ou de ce que X est maintenant. C'est-à-dire qu'on reprend à toute fin utile une espèce d'architecture ou une interface assez semblable. C'est du micro-blogging et c'est un réseau qui n'est pas contrôlé, contrairement à X, qui n'est pas contrôlé par une entreprise privée, mais qui est plutôt une entreprise d'intérêt public. Et tout le monde peut s'approprier un petit morceau de Blue Sky, pour ainsi dire, dans la mesure où c'est possible d'installer son propre serveur et d'opérer en quelque sorte une branche de Blue Sky parce que ça fonctionne sur un protocole qui est open source. Donc, en bon français, qui est un code ouvert et que tout un chacun, à toute fin utile, peut utiliser. Actuellement, ça gagne vraiment en popularité. Si vous voulez suivre l'actualité, je vous inviterai, entre autres, à suivre le compte de l'Alliance des radios communautaires du Canada. On est là-dessus.
Ah oui?
Ça croît tranquillement pas trop vite. Ça fait quelques temps qu'on a ouvert le compte, mais on est rendu à 200 quelques abonnés. Donc, ça va quand même pas pire. Alors, il y a des gens de l'Acadie, il y a des gens d'un peu partout à travers la francophonie, il y a des gens, bien sûr, de la communauté internationale anglaise là, qui sont là-dessus, mais ça va vraiment très, très bien. Et ils sont passés cet automne de 10 millions à une vingtaine de millions d'abonnés après l'élection de Donald Trump, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui la plateforme X pour s'en aller sur Blue Sky.
Ah,
et
oui, hein?
Ouais, t'as entendu
avec
parler
Elon
de ça?
Elon Musk, ouais, c'est ça qui
c'est
est
ça.
Mêlé, là.
Exactement. Elon Musk, dont Donald Trump veut faire l'un de ses proches conseillers. Alors, il y a des gens qui ont dit, ben, tu sais-tu quoi? Moi, ça me tente pas nécessairement de rester sur un réseau social qui va appartenir à un conseiller du gouvernement. Alors, il y a des gens qui ont fui. Il y en a plusieurs qui se sont en allés sur Blue Sky. Et l'adresse, c'est bsky.app. Bsky.app. C'est disponible sur l'Internet. C'est disponible sur les plateformes les plateformes mobiles, là, Android, et puis les téléphones qui fonctionnent sous iOS. Donc, allez faire un tour si vous êtes, disons, intéressé un petit peu par les médias sociaux. C'est la grosse patente du moment, comme on dit. On s'arrête pour une courte pause. On vient dans un instant. Nous en serons rendus à notre dernier bloc de l'émission. Et tu vas nous parler de quoi?
Les brevets.
Oh, les brevets. Comment on s'enrichit ou comment certaines personnes se sont enrichies avec les brevets. Restez branchés.
Peut contenir des infos.
Vous savez que dans une émission toute récente, je pense que c'est la semaine passée, on avait parlé de jeux de société, c'est bien ça,
oui.
Hein, Sébastien?
Exact.
En marge de ça, tu nous avais dit que tu allais faire une recherche sur les brevets.
Oui, parce que j'avais parlé du fameux brevet de Monopoly, là.
Oui,
puis qui s'était fait acheter pour 500 $, puis les autres ont fait des millions, puis à Parker Brothers, ça l'était fait offerte par un monsieur, là, Charles.
Ouais.
Mais c'est ça, je voulais faire des recherches cette semaine pour les brevets, ça m'avait donné le goût. Puis, on va en parler. J'ai fait de la recherche assez exhaustive. On verra ce qu'on a le temps de toucher aujourd'hui dans le bloc. Mais on sait que, bon, ça fait partie des droits de propriété intellectuelle des brevets. Et on divise ça habituellement en deux branches. Il y a la propriété intellectuelle littéraire et artistique, qui est le droit d'auteur. Et la propriété industrielle, comme les brevets, les marques et le secret commercial. Ça va comme dans les trois ensemble dans la deuxième catégorie. Pour ce qui est des droits d'auteur, la première catégorie, ben, c'est les illustrations pour la page couverture d'un livre, par exemple, le texte d'un roman, les personnages d'une histoire, les partitions de musique, les chorégraphies, les films, les textes dramatiques. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment mené par le droit d'auteur. Pour ce qui est de la marque, ben là, la marque, ça protège les mots, les symboles qui désignent des produits ou des services, les noms de marque, les logos, les slogans, un goût et même la position d'un signe sur un objet, ça peut aussi faire l'objet d'une marque de commerce. Et la marque, c'est aussi le nom d'une chaîne de magasins ou une forme particulière, comme par exemple la bouteille de Coca-Cola. Sa forme est protégée par la marque. Ou même une couleur, comme le rouge des voitures Ferrari, c'est protégé par une marque. Et bon, il y a aussi le secret commercial. Ça, par contre, au Canada, il n'y a pas de disposition légale pour ça en tant que tel, pour protéger un secret commercial. Donc, on les protège par soit brevet ou droit d'auteur, là, marque ou autre. Mais le secret commercial existe ailleurs. C'est surtout pour les formules, les recettes qui sont tenues secrètes par une entreprise. Et c'est souvent une alternative au dépôt d'un brevet dans d'autres pays. Ici, il faut y aller avec le brevet parce qu'on n'a pas ça, là, secret commercial. Mais des exemples là, de secrets commerciaux, tu dois en avoir en tête.
La recette secrète du poulet frit Kentucky, ça se peut-tu?
ben oui, c'est clair. Ça, c'est protégé par le secret commercial aux États-Unis.
Okay.
La formule chimique du WD-40, la recette de la sauce à Big Mac de McDonald's, bon, tout ça, c'est protégé par le secret commercial.
Okay.
Mais là, on en vient à parler des brevets. C'est le sujet aujourd'hui. Les brevets, donc, c'est une partie, là, comme je vous disais, de la protection intellectuelle. Et ça protège les inventions. Et il faut que ça observe trois critères pour être applicable à un brevet. Il y a la nouveauté, il y a l'utilité et l'inventivité, ou on peut dire aussi la non-évidence. Il faut que ce soit inventif, en voulant dire, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop évident. Des utilisations courantes, ça peut être comme des médicaments, technologies, des outils, des procédés de fabrication, ou même le perfectionnement sur une invention qui a été déjà brevetée. Si on la perfectionne, ça se peut qu'on nous accorde un brevet pour le perfectionnement. Puis, il y a certaines inventions qui ne sont pas brevetables, par contre, surtout quand elles impliquent des questions éthiques ou morales. Parmi les choses là, qui ne peuvent pas être brevetées, je peux vous en citer quelques-unes, souvent des principes scientifiques et des conceptions théoriques, on ne peut pas breveter ça, des méthodes de traitement médical ou de chirurgie non plus, des formes de vie supérieure, là. Commencer à breveter, de quoi ça aurait l'air, les petits bonhommes verts là, d'une autre planète, ça, on ne peut pas. Et les formes d'énergie non plus, ça ne se brevette pas. Mais on peut obtenir un brevet sur des choses folles, pourtant, qui arriveront jamais sur le rayon des magasins. C'est possible quand même. Comme par exemple, là, ça a été breveté un bâton pour chien.
OK.
mais tu sais, un jouet animalier, un bâton synthétique, un brevet qui a été déposé en 1999. Et tu sais, c'est certain que le monde a déjà joué avec des chiens, là, avec un bâton, hein, avant 1999. Mais bon. Il y a des choses comme ça, que ça ne fonctionnera jamais en magasin, mais on accepte de donner un brevet. Il y a eu un brevet là, de Walt Disney pour des appareils de communication pour mammifères marins. T'sais, ça ne sera jamais vendu. Là. Regarde, je t'explique. Un brevet qui contient un code source d'à peu près 17 pages.
Quand même.
Ouais, ça revient à un clavier de la taille d'un dauphin qui traduit les frappes de touche en son pour les humains, puis les autres dauphins. Et peut-être aussi pour les baleines, les marsouins. Alors, eux autres, ils avaient fait breveter ça. Ce qu'ils espéraient, c'est qu'un humain avec ça serait capable de parler aux dauphins, tu sais, avec son sénat. Bon, Ça n'a jamais sorti en magasin. C'est breveté depuis un bout, mais voilà.
Et ils espéraient peut-être se servir de ça dans des parcs aquatiques qui sont propriétés de Disney, j'imagine. Je ne sais pas. Pourquoi tu t'inventes
c'est un peu pour tous. Là. Peut-être des parcs aquatiques, ça serait là, mais c'est pour pouvoir avoir chez vous un clavier là, pour parler aux dauphins. Ça. Mais c'est sûr qu'ils mettraient ça dans les parcs où il y en a des dauphins.
Mais on a tous besoin d'avoir un clavier pour parler aux dauphins à la maison chez soi.
T'as raison que c'est certainement pour... les endroits où il y a des dauphins. Mais bon.
Je pars en vacances, m'en vais en Floride, m'apporter mon clavier pour parler aux dauphins. Tu sais, c'est comme le seul invalide, c'est quoi? C'est un clavier pour parler aux dauphins, voyons. Tu sais, c'est n'importe quoi.
On dérape. Mais quand même, c'est ça, c'est parce que je sais pas, c'est quelque chose qui sera jamais vendu, là, vraiment. Fait que je sais pas pourquoi il ferait. Tu sais, des affaires comme un changeur d'ampoule, là. Tu sais, la fameuse blague, ça prend de gens pour changer une ampoule. Combien de machines faut pour changer une ampoule? Bien, il y a une machine qui a l'air de peser à peu près 100 livres, qui coûte très cher pour changer des ampoules et qui a été brevetée. Regarde, c'est un peu n'importe quoi, mais des choses comme ça. Et on y reviendra plus tard, si on a le temps, sur d'autres exemples comme ça, cocasses de brevets. Là. Mais quand je te disais l'affaire pour le chien, juste pour avec ça, là, un jouet pour animaux de compagnie, c'est comme s'ils en ont breveté plein, qui sont la même chose. Ça, c'est un peu bizarre. Il y a un livre qui est « 187 Ways to Amuse a Bored Cat » qui décrit exactement la même idée qu'un autre brevet qui était pour faire de l'exercice à un chat avec un rayon laser.
Avec un pointeur, là, c'est ça.
C'est ça. Puis, non seulement le brevet aurait probablement jamais dû être donné, mais il semble qu'ils en ont donné tout plein par rapport à ça, des pareils. Jouets pour animaux de compagnie, un jouet laser pour animaux de compagnie qui existe, un autre brevet qui est sur jouet laser automatique pour animaux de compagnie. En tout cas, ils en ont donné plein. Fait que des fois, là, tu vois qu'il y a des lacunes, c'est bizarre, mais bon, c'est pas des choses qui auraient dû nécessairement être brevetées. Donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent comme ça. Mais des gens riches, là, grâce aux brevets, les plus connus, Thomas Edison, lui, là, il a déposé plus de 1000 brevets, dont celui de l'ampoule électrique. Et le phonographe, la caméra cinématographique est devenue excessivement riche avec ça, Edison. Steve Jobs, qui est cofondateur d'Apple, il y a beaucoup de brevets pour des produits révolutionnaires comme l'iPhone, l'iPad, c'est lui qui a les brevets pour ça. Alors, c'est payant, hein, pas à peu près. Elon Musk, on en a parlé tantôt, ben lui, il est connu pour Tesla et SpaceX, mais il y a beaucoup de brevets dans le domaine des technologies, de l'énergie, des transports et tout ça. Il y a des brevets là, vraiment farfelus dont je peux te parler comme... Ken Auri, te rappelles-tu du Lucky Break Wishbone? Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Tu sais, l'os pour faire des souhaits.
Oui, 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 absolument. L'os de poulet, là.
Mais là, on en fait un en plastique.
Ah, ben oui, ben tiens.
C'est lui, Ken Aroni, qui a fait ça.
Ben non, mais l'idée n'est pas dénuée d'intérêt quand tu y penses. C'est pour des gens qui sont un peu superstitieux dans une certaine mesure. Tu n'as pas besoin d'aller à l'épicerie, d'acheter un poulet, de faire cuire un poulet, de désosser le poulet, puis de sortir le wishbone. T'as juste à aller au magasin et tu t'achètes un wishbone.
Il faisait sûrement ça pour aider les gens et non pour faire de l'argent.
Ben, coudonc, c'est sûr. C'est bien clair.
Ben non, parce que lui, là, l'idée à Aroni, il est venu pendant l'idée, un dîner d'action de grâce où il y avait plusieurs personnes qui voulaient leur propre os, là, tu sais, de souhait. Et puis là, il s'est dit, ben oui, je vais en faire en plastique, je vais les vendre. Puis en 2 ans, son entreprise a généré près $1 million de ventes.
C'est fort quand même quand tu y penses, là. Parce que on dit que de la nécessité est la mère de l'invention. Tu sais, il y a un vieux proverbe ou un vieux dicton qui dit ça, qu'on dit que l'invention est née d'une nécessité. Mais lui, il s'est aperçu pendant un souper de l'action de grâce, du Thanksgiving, qu'il y a des gens qui étaient bien frustrés de ne pas avoir le wishbone. Puis il a dit, attends un peu, je ne vais toujours bien pas aller acheter des dindes pour tout le monde, je vais faire des wishbones. C'est cave, mais en même temps, tu dis, mais pas tant.
Il les a fait, ses millions.
Ah oui, il a fait son argent.
C'est ça, là, l'idée. Là. On peut devenir riche avec des brevets, c'est spécial. Par contre, des fois, je trouve ça injuste, la façon que c'est fait. Et le fameux Slinky, tu l'as imaginé que c'est breveté, ça?
Ben, clairement.
C'est-tu le vrai nom qu'on donne au Slinky? Slinky, c'est comme un nom d'emprunt.
Je sais pas, j'ai aucune
idée. Ça s'appelle le Hondamania.
Le Hondamania.
Hondamania, je ne le savais pas, moi, non plus.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Ben, c'est ça le vrai nom de cette chenille.
Ben, tu sais, en même temps, je veux dire, c'est un peu comme bon nombre d'autres objets qui ont pourtant été brevetés et dont le nom s'est transposé dans la culture populaire et même jusqu'à aller dans les dictionnaires. Par exemple, on ne parle plus de mouchoir, on parle de Kleenex, on ne parle plus de frigidaire, on parle plus de frigo, c'est-à-dire on parle de frigidaire. T'sais. On ne parle plus de motoneige, on parle de skidoo. Donc, c'est un peu la même chose avec le Hondamania.
Oui. Hondamania, une chenille qui descend les escaliers tout seul. Eh oui. Et ça a été inventé par l'ingénieur naval Richard James en 1945. Puis lui, il a tout de suite eu du succès avec ça. En 60 ans, il s'est vendu plus de 300 millions de Slinky. Et ça a été même désigné jouet officiel de l'État de la Pennsylvanie.
Ouais.
Un que je vais te parler qui est très important, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps pour d'autres, mais le fameux bonhomme sourire, le smiley, là.
Évidemment.
500 millions de dollars, c'est ce que ça rapporte chaque année, la business
à chaque
du smiley.
Année.
Ben oui, puis regarde, c'est partout, c'est sur Facebook, c'est partout, cela. Puis il y a des droits qui sont payés à la compagnie Smiley. En 1963, c'est un graphiste américain, Harvey Ball, qui avait dessiné un rond jaune, deux yeux noirs puis un sourire pour une société d'assurance du Massachusetts. Puis lui, ce qu'il voulait avec ça, c'est remonter le moral des employés, faire sourire. Puis Murray et Bernard Spain lui ont acheté les droits exclusifs pour la somme, c'est pire que le Monopoly, 45 $.
Pour 45 piastres.
Ils ont donné ça, pas un sou de plus. Les frères Spain ont revendu les droits du dessin 500 millions en l'an 2000.
Incroyable.
Et puis, 1er janvier 72, il y avait le quotidien François qui avait inauguré en première page une colonne baptisée « Prenez le temps de sourire ». Et Franklin Loufrani avait déposé son dessin à l'Institut national de la propriété industrielle et il a détenu le copyright, les droits d'auteur pour l'œuvre, mais aussi les droits d'exploitation commerciale. Et ces droits du logo sont étendus maintenant à 70 pays et 40 classes de produits. Au fil des ans, lui, c'est tout un businessman, même on le dit businessman hyper actif. Il est devenu un as des produits dérivés. Il a même délaissé le smiley, Monsieur Loufrani, pour se consacrer à des exploitations comme Laurel et Hardy, Charlie Chaplin, Star Wars, Tom et Jerry, Félix le Chat, le Concorde. Et il est aujourd'hui propriétaire, Franck Loufrani est propriétaire de 5600 marques.
Incroyable.
Aujourd'hui. Ouais, fait que le Smiley Company, qui détient les droits du bonhomme sourire dans plus de 100 pays maintenant, l'entreprise est considérée comme faisant partie du top 100 des sociétés de licence dans le monde. Et ils font tout plein de produits, des textiles, des casse-têtes, des articles de fête, de la papeterie, des accessoires automobiles, des jouets. Mais c'est super payant. Et parce qu'on arrive là, proche du temps des fêtes, savais-tu que en 2001, il y a quelqu'un qui a breveté une réponse aux lettres du Père Noël.
Ah oui?
Ouais, pour les lettres aux enfants, ça coûtait 10 $ la lettre. Puis c'est Byron Rees qui a lancé ça en 2001. Puis il a atteint 1 million de chiffre d'affaires en à peine 4 ans en répondant aux lettres des jeunes au Père Noël. Lui, ça, c'est une autre idée de business, mais bon. Des brevets.
Morale des histoires, vous aurez beau acheter des bitcoins autant comme autant puis essayer de vous enrichir, c'est peut-être mieux de trouver des brevets à 45-50 piastres chaque. Même à la rigueur, des jeux de société qu'on va vous fourguer pour 500 piastres, puis à un moment donné, qui sait, peut-être que vous allez engranger des millions. Hein? C'est pas des Moses de farce. Merci.
C'est fou, il y en a vraiment qui sont devenus riches avec les idées des autres.
Avec les idées des autres, ça, c'est bien dit. Hein? T'achètes le brevet, t'achètes l'idée de quelqu'un d'autre, puis après ça, toi, tu fais la pièce avec, c'est ça. Ouais. Merci, Sébastien. Franchement, ça a été très intéressant. Et ça conclut pour notre émission de cette semaine. Il n'y a pas de brevet officiel de déposer, soit dit en passant, pour cette émission-ci, mais on aimerait bien ça, s'il vous plaît, si vous étiez là pour l'original la semaine prochaine, mesdames, messieurs, pour une autre édition de Peu contenir des infos. Et d'ici là, ben, salutations, portez-vous bien. Merci, Sébastien.
Oui, bonne semaine.